21h passées de quelques secondes, vous écoutez Radion, bienvenue à bord de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire. L'Amérique, le Sud, que nous allons aborder ce soir à travers la vie d'une femme, d'un écrivain américain, Flannery O'Connor, grande romancière et nouvelliste américaine du vieux Sud des États-Unis. Flannery O'Connor, malgré une vie brève et marquée par la maladie, a laissé une œuvre puissante, encore trop méconnue du public français. Alors pour dérouler la vie et l'œuvre de cette femme de lettres américaine, nous avons le plaisir d'accueillir devant notre micro Cécilia Duterre. Bonsoir Cécilia Duterre.
Bonsoir, plaisir partagé d'être avec vous ce
Merci,
soir.
Merci Cécilia d'être à nos côtés sur les banquettes de Wagon Livre pour mettre en valeur un livre sorti l'an dernier. C'est une biographie littéraire que vous avez consacrée à Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, Dieu et les Gallinacés, disponible en librairie aux éditions du Cerf. Cette œuvre originale dont vous allez nous parler ce soir, c'est une œuvre que vous avez découverte de quelle manière? Comment avez-vous découvert l'œuvre et la femme?
Je l'ai découvert assez tôt, à l'âge de 16 ans. Mon père m'avait offert les nouvelles. Elle est sans doute plus connue en France pour ses nouvelles que pour ses romans. Il m'avait offert Les braves gens ne courent pas les rues, qui est son recueil de nouvelles le plus, je pense, le plus célèbre. Et je suis tombée en amour avec cette œuvre. J'ai tout de suite vu qu'il y avait... Alors c'est une œuvre très... À la fois dans les nouvelles, il y a une alacrité, il y a il y a beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de cruauté, beaucoup de violence. Et c'est aussi une œuvre très exigeante. Alors, à 16 ans, je n'ai pas forcément pénétré toute la densité, toute la richesse des écrits de Flannery O'Connor, mais j'ai compris qu'il y avait un mystère et que c'était de ce mystère, je parle du mystère divin, qu'elle voulait nous parler. Et j'ai décidé d'aller sur les traces de Flannery O'Connor pour creuser ce mystère.
J'ai omis de préciser au début de notre échange que vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. Quand cette année 2017, votre dernier ouvrage, dont nous ne ferons que parler brièvement, je voulais juste nous présenter votre dernier ouvrage.
Alors mon dernier ouvrage, également aux éditions du Cerf, « À toi ma fille », une mère. La mère que je suis, mais c'est une mère, une mère universelle, s'adresse à une jeune fille qui va prendre son envol, une jeune femme, on va dire, et pour lui donner un regard de femme un peu plus mûre sur l'époque, sur le monde, et l'aider à se construire harmonieusement et aller vers sa lumière.
Vous avez fait paraître L'âme de fond, c'était en 2012, qui a été récompensé par un prix, le prix Houlmont de la Fondation de France. Et puis un essai aussi sur Hetty Hillsum, alors un autre destin de femme plus tragique peut-être que celui de Flannery O'Connor.
Un autre destin de femme. Le destin de Flannery O'Connor était quand même assez dur, hein, parce que peut-être qu'on le verra plus tard, mais elle était atteinte d'une maladie grave, le lupus érythémateux, dont elle est décédée à l'âge de 39 ans, donc c'est une vie brève. Hetty Hillsum aussi, c'est une vie brève pour d'autres raisons, puisqu'elle a vécu la Shoah, elle est morte à 29 ans. Mais ce sont nos deux itinéraires en dehors des écrits qu'elles ont laissés, qui sont magnifiques sur le plan littéraire, mais c'est aussi deux itinéraires spirituel, très intéressant, diamétralement, je dirais, opposé, l'une beaucoup plus dogmatique, Flannery O'Connor, l'autre beaucoup plus universelle en tant que Dieu, je parle le Dieu qu'elle défende, mais en même temps qui se rejoignent sur beaucoup d'aspects, et toutes les deux résistantes spirituelles face au mal, l'une la maladie, l'autre le mal humain, la Shoah.
Et vous, Cécilia Duterre, vous êtes croyante? Quelle est votre position philosophique à l'égard de la foi catholique ou chrétienne, pour faire plus général?
Alors moi, je suis croyante. Effectivement, je suis chrétienne, mais très ouverte aussi à des spiritualités comme celle notamment d'Hetty Hillsum, qui sont plus adogmatiques et plus universelles. Et ça m'intéresse d'en parler, parce que je pense que l'époque aussi est très réceptive à ce type de spiritualité, peut-être moins enfermée dans une religion. Voilà.
Alors revenons au destin de Flannery O'Connor. Alors Flannery O'Connor est née dans ce qu'on appelle le vieux Sud américain. Alors vous vous y êtes rendue, vous, en pèlerinage avec votre mari, Cécilia Duterre.
Oui, justement, pour repartir sur les traces de Flannery, je voulais découvrir les États-Unis que je ne connaissais pas et découvrir les États-Unis par le vieux Sud. Donc effectivement, nous sommes partis dans le vieux Sud, qui est quand même une contrée très particulière, hein. C'est une enclave, même encore maintenant, aux États-Unis. C'est assez... c'est une région évangéliste... assez fermé finalement à la modernité, un peu moins maintenant que dans les années 50 bien sûr. Et ce que Flannery O'Connor nous décrit, donc, c'est le vieux sud des années 50, avec aussi le contexte très particulier de cette lutte intégrationniste des Noirs qui, effectivement, la lutte égalitariste. Et donc ça habite vraiment l'œuvre, toute son œuvre. Donc c'est un univers à la fois pour nous très coloré et en même temps très rude, hein, très violent, hein, avec quand même ce qu'elle nous décrit, c'est la réalité des propriétaires blancs très étriqués, très racistes, très confis dans leurs préjugés de sociaux, de race, et puis bah, cette lutte aussi des Noirs qui essaient effectivement, et puis il faut voir qu'on est dans les années 50-60, donc effectivement il y a toute la montée avec Martin Luther King. Donc c'est vraiment une œuvre très intéressante, et parce que justement, écrivain croyant certes, mais ce n'est pas du tout une œuvre édifiante. Elle nous raconte le vieux sud qu'elle a sous les yeux avec cette violence qu'elle n'édulcore en rien, et c'est au sein de cette violence qu'elle va, je dirais, la transcender pour nous faire apparaître dans ce prosaïsme, dans cette crudité, dans cette cruauté, qu'il existe aussi le mystère divin, celui alors, qu'elle veut nous révéler.
Flannery O'Connor est née le 25 mars 1925, donc à Savannah, qui est l'ancienne capitale de la Géorgie. Donc c'est vraiment le vieux sud protestant, vous l'avez expliqué. On imagine un peu austère aussi, dans une morale un peu austère.
Oui, bah,
elle est catholique.
Elle est catholique, tout à fait. Mais elle est, je dirais, dans le vieux sud, quelque part, c'est un clan un peu minoritaire, puisque effectivement, on est en contrée protestante. Donc bah, elle fait ses. Oui, le début de sa vie à Savannah, qui est une très jolie ville, mais effectivement un petit peu quand même très bourgeoise, très provinciale, avec, elle est fille unique, donc une mère assez rigide.
Regina.
Regina, donc rien que le prénom en dit long, vous voyez, sur la façon dont elle gouverne la maison. Et puis un père, hein, qui comprend beaucoup mieux cet enfant qu'elle est, qui est une enfant, je pense, assez précoce, très intelligente, déjà qui a l'habitude de regarder la vie, le monde, avec un regard un peu en biais, un peu insolent, mais très intelligent. Et son père est très vite assez admiratif de cette petite fille qui, avant d'écrire, dessine. Et dessine, alors pourquoi le titre Dieu et les gallinacées? C'est parce qu'elle dessine des poules. On lui a interdit à la maison les animaux domestiques parce que sa mère a peur des maladies, mais il y a une arrière-cour dans laquelle il y a des poules, donc elle se rabat sur les poules et elle dessine des poules. Elle est complètement obsédée par les poules. Et puis plus tard, elle commence à écrire des petites fabulettes d'enfants ses premiers petits contes d'enfants sont autour des poules. Et son père les collectionne parce qu'il est admirateur complet de sa femme, sa fille.
Il faut dire aussi que le Sud est un pays de conteurs. Hein. On peut mentionner d'autres grands noms de la littérature issue du Sud, du vieux Sud des États-Unis. Margaret Mitchell, Caldwell, Steinbeck, ce n'est pas rien. Ou alors Carson McCullers, mais je crois qu'elle n'appréciait pas du tout, hein, Carson McCullers.
Ou Faulkner même. Hein, oui, alors plus tard, effectivement, quand elle a commencé à écrire, elle s'est inscrite dans cette tradition sudiste, vous avez tout à fait raison, d'écrivain très coloré aussi. Et alors Carson McCullers, effectivement, qui est sans doute plus connue en France qu'elle. Oui, finalement, elles écrivent des choses assez proches. Elles dessinent dans leurs nouvelles ou dans leurs romans véritablement le vieux Sud profond, la solitude aussi qui habite ces contrées. C'est un monde assez dur, assez isolé, solitaire.
Humide, poussiéreux.
Alors humide, oui, mais chaud surtout. Une humidité moite. Quand on y va, d'ailleurs, on est saisi par cette touffeur. Voilà, et puis encore une fois, un monde très fermé, hein, à la modernité.
Si vous le voulez bien, Cécilia, on marque un premier temps de pause musicale. Nous reviendrons bien sûr avec vous sur les traces et les pas de Flannery O'Connor. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc d'une biographie littéraire intitulée Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacées. Cet ouvrage est disponible aux éditions du Cerf. On marque une pause musicale et je rappelle que nous sommes, au moment où nous enregistrons cette émission, tout près de ce qu'on appelle le Benaton, hein, c'est-à-dire le porteur de cette hôte qui recueille le raisin lors des vendanges. Et nous sommes à la 10e édition de Livres en vigne au château du Clos de Vougeot, situé entre Beaune et Dijon. Très bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invitée, Cécilia Duterre.
Envoie tout vers sa tête rentrée, resserrée dans tes épaules. Tu n'aimes rien montrer, là-bas au fond tu t'isoles. Il y a si de plis que l'on voit entre tes yeux. C'est même très d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser.
Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Flannery O'Connor nous occupe ce soir et grâce à Cécilia Duterre qui a écrit une biographie sur cette femme de lettres américaine. Flannery O'Connor, Dieu et les Gallinacées, pardon, c'est aux éditions du Cerf. On a parlé, alors les Gallinacées, vous avez expliqué précédemment, cette espèce de passion complètement folle pour les poules, pour les coqs. Donc la petite Flannery O'Connor, avant même que d'écrire, dessine. Et en cela, elle sait séduire son papa qui admire les talents précoces d'une jeune fille. Vraisemblablement à l'intelligence déjà très forte,
oui,
petite
oui,
fille.
Oui, c'est certain.
Alors, la famille va quitter Savannah pour s'installer, alors comment dit-on, Milledgeville ?
Milledgeville, oui.
Alors, c'est à quelques kilomètres d'Atlanta, c'est pas bien loin ?
Oui, quelques miles. C'est surtout un tout petit bourg. Hein.
C'est un trou perdu, en fait.
Un trou perdu, oui, tout à fait. Au fin fond de la Géorgie profonde.
Et les deux éléments qui pourraient éventuellement être attrayants, je le dis avec un point d'ironie, c'est qu'il y a un asile de fous et un pénitencier.
Eh oui, vous voyez. Mais il s'installe là. Le père travaille à Atlanta. Mais bon, la mère et la fille, quelques temps, accompagnent le père. Et puis Atlanta, la grande ville par rapport à Savannah, c'est pas du tout, ça leur plaît pas. Et donc, elles se rabattent. Le père reste à Atlanta pour travailler et puis revient le week-end. Et elles se rabattent sur la maison des Klein, qui est la maison familiale de la mère, qui est une grande demeure, vraiment tout ce qui est plus classique dans le Vieux Sud. Et puis, voilà, et la petite Flannery donc, est scolarisée à la Peabody High School de Milledgeville, qui est une école un peu particulière parce que finalement c'est assez une éducation assez libre où l'enfant curieusement fait un petit peu ce qu'il veut, c'est-à-dire que c'est lui qui décide s'il veut lire, s'il veut écrire, s'il veut dessiner, ce qu'il doit apprendre. C'est un petit peu calqué, on va dire, mais vraiment grosso modo sur le modèle Montessori par exemple en France. Et donc elle est très heureuse, cette petite Flannery O'Connor, parce qu'elle est très indépendante et ça lui convient très bien.
On ne peut pas dire qu'elle a eu une enfance pleine de fantaisie, une mère un peu rigide, autoritaire, une enfant quand même qui est seule et qui se nourrit de ce qu'elle voit autour d'elle et qui finalement paraît un peu austère, manquant quand même complètement de fantaisie, de caprice de la vie.
Je suis pas sûre qu'elle soit austère. D'abord, elle a quand même pas mal d'amis. Elle est très appréciée. Alors la mère trie sur le volet les petits camarades qu'elle invite à la maison, parce que encore une fois, on n'invite pas n'importe qui. Mais je pense qu'elle a un monde à elle en fait. Alors d'abord, c'est une enfant unique. Souvent, les enfants uniques creusent par la force des choses un imaginaire, et elle a un imaginaire débordant. Elle s'occupe. Je crois qu'elle est très heureuse en fait dans sa petite vie d'enfant. C'est plus tard que ça se gâte en fait, quand son père décède quand elle a 16 ans. Ça, c'est un coup très dur. En même temps, il l'a beaucoup portée sur le plan artistique, parce qu'elle a commencé déjà un petit peu à écrire. Et voilà, je pense que bon, il meurt à 16 ans, c'est un choc, mais il lui a donné confiance en elle. Et je pense qu'elle est armée pour ce choc. Et puis à partir de là, vraiment, son désir, c'est d'écrire.
Alors elle a 16 ans lorsque son père meurt, c'est le 1er février 1941. Son père qui meurt donc d'une maladie qui va revenir et
voilà,
qui va la toucher elle de plein fouet quelques années plus tard.
Voilà, donc lui était atteint de ce lupus érythémateux, donc maladie très grave, invalidante, qu'on ne soignait pas, qu'on pouvait soulager avec d'un peu de cortisone, mais c'est tout. Et elle ne le sait pas encore à cet âge-là, mais un tout petit peu plus tard, vers l'âge de 24 ans, elle commence à avoir les premiers symptômes et elle les reconnaît. Et puis on finit par mettre un mot sur sa maladie. Elle a elle-même hérité de ce lupus érythémateux qui va aller en empirant et qui va donc tellement l'invalider qu'elle va devoir quitter la maison des Klein parce qu'elle est au premier étage, elle ne peut plus monter les escaliers et elle va s'installer dans une ferme un tout petit peu plus loin, un tout petit peu à l'écart de Milledgeville qui s'appelle Andalusia. Et là, elle va s'installer au rez-de-chaussée parce qu'elle ne peut plus monter les escaliers. Elle a déjà des béquilles, elle est pas bien du tout. Mais elle met toutes ses forces justement dans l'écriture. Sa résistance spirituelle au mal qui l'habite, qui est donc un mal de la maladie, ça va être écrire, mettre tout ce qui lui reste de force et d'énergie dans l'écriture.
Cécile Duterre, comment s'organise la formation intellectuelle de Flannery O'Connor ?
Alors, elle a suivi préalablement, parce que là, c'est vrai qu'on est passé tout de suite à l'âge de 24 ans, mais entre-temps, entre l'école, elle a suivi l'université féminine, d'abord de Géorgie, puis ensuite, elle a intégré l'université de Duke dans l'Iowa, où elle a suivi les cours de Paul Engle, qui était un atelier d'écriture assez connu à l'époque, et cet homme lui a tout de suite vu dans ses textes la force spirituelle qui habitait ses premiers textes d'étudiante, et il l'a poussée à développer cette singularité, parce que justement son credo, lui, ce Paul Engle, c'était de véritablement pousser les étudiants dans leur authenticité la plus forte. Donc il a dit, la sincérité de Flannery O'Connor, c'est justement qu'elle est habitée par le spirituel, et il faut lui apprendre à canaliser et développer ce point qui va singulariser son œuvre, et c'est ce qui va se passer.
Alors, bien sûr, elle fait cette formation intellectuelle, bénéficie de cet individu prestigieux, cet atelier d'écriture qui est prestigieux. Est-ce qu'elle a une vie sentimentale en tant que jeune femme ? Lui connaît-on, même plus tard, un amant ou une maîtresse, sait-on jamais ?
Alors, à l'université, j'ai rien trouvé de particulier. Elle a des amitiés très fortes avec certains hommes. Alors, peut-être y a-t-il lu quelque chose de plus, mais en tout cas, rien ne l'indique. Plus tard, c'est là qu'elle est atteinte du lupus érythémateux. Elle sait très bien que cette maladie va l'empêcher, en fait, de se déplacer. Elle va être quasi recluse, en fait, à Andalousia. Donc, elle est bien consciente que sa vie de femme va être extrêmement compliquée à faire. Et finalement, après en avoir été, évidemment, terriblement choquée au départ, quand elle apprend la nouvelle de ce lupus, elle finit curieusement par trouver que c'est une, je mets des guillemets, une malédiction bénite, parce qu'au fond, justement, elle ne pourra rien faire d'autre qu'écrire. Elle ne pourra pas faire des enfants, elle n'aura sans doute pas d'homme dans sa vie, elle ne pourra pas tellement se déplacer, et donc, finalement, sa vie sera dévolue à son art.
Et elle a accepté, en fait. C'est une femme résignée. Elle a accepté.
C'est la foi. Alors, c'est pas de la résignation, c'est vraiment de l'acceptation, je dirais, au sens chrétien du terme. Elle a une mission, c'est d'écrire, une mission d'écrivain croyant, revendiquée comme telle dans toutes ses conférences. Elle a donné beaucoup de conférences. Elle a toute une correspondance aussi qui est extrêmement intéressante à lire et où elle creuse absolument cette mission d'écrivain croyant avec de nombreux correspondants. Elle parle beaucoup de cette chose qui l'habite. Et finalement, toute sa vie va être dévolue à son œuvre.
En fait, il faut bien comprendre que les premiers symptômes de cette maladie invalidante apparaissent alors qu'elle a 24 ans. C'est vraiment une très, très, très jeune femme.
Oui, oui. Alors, on lui connaît quand même, c'est certainement à lui que vous faisiez allusion, un vendeur de chez Harcourt, donc son éditeur, c'est Harcourt. Et un des commerciaux, on va dire, de l'époque, est très admiratif déjà de ce qu'elle a écrit et vient la visiter pour la connaître. Et puis, cette coup de foudre, je dirais, amicale du côté de cet homme et plus amoureux du côté de Flannery O'Connor. Et puis, il revient la voir souvent parce que, voilà, une complicité s'installe qu'elle imagine amoureuse. Un jour, il l'embrasse, mais très furtivement. Et puis, cet homme part 6 mois faire le tour d'Europe, comme ça se faisait assez souvent à l'époque. Et pendant ce tour d'Europe, il rencontre celle qui sera son épouse. Et elle apprend donc 6 mois plus tard qu'il s'est marié. Et quand elle reçoit le faire-part de mariage, elle vacille un peu sur ses béquilles. Mais c'est un choc. Mais elle va transposer ce choc amoureux dans une nouvelle assez truculente. D'ailleurs, une des plus cruelles qu'elle ait écrite. Mais vous voyez que là aussi, c'est une façon toujours de transcender le mal, de transcender la souffrance, de transcender l'épreuve, quelle qu'elle soit, amoureuse, pathologique ou autre, en écriture.
La vie de Flannery O'Connor est très émouvante parce que, en vous écoutant, puis en ayant lu votre biographie littéraire, Cécilia Duterre, on a le sentiment que vraiment, il y a sur la tête de cette femme n'est arrivée que des catastrophes, que des épreuves, et que la littérature a vraiment été salvatrice, et qu'elle a trouvé son salut dans la voie de l'écriture.
Oui, alors il y a de ça, mais c'est vrai que même sur ce plan-là, c'est une œuvre quand même assez exigeante, extrêmement belle, vraiment que j'invite tout le monde à découvrir si, pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais c'est vrai, avec une très grande profondeur, avec plusieurs degrés de lecture, pas forcément si simple pour entrer à l'intérieur, pour justement goûter à ce mystère qu'elle ne cesse de vouloir nous révéler au fil de ses nouvelles. Et elle a été très incomprise, en fait, sur le plan journalistique. Beaucoup de journalistes sont passés à côté de l'œuvre à l'époque.
Mais est-ce que les écrits de Flannery O'Connor sont en décalage avec les préoccupations des Américains des années 50 ?
Je sais pas. En fait, elle se situe un peu à la croisée des chemins parce que son public catholique, dont on aurait pu imaginer que évidemment aurait été acquis à sa cause, en fait, il ne l'est pas parce que cette littérature est tout sauf édifiante. Donc, ça le déstabilise complètement. Il s'attend à quelque chose de très édifiant. Or, c'est cruel. Or, c'est violent. Il faut dire aussi qu'elle a une affection pour les anti-héros. Donc, elle prend des boiteux. Elle n'hésite pas à parler des prostituées, de voleurs, d'assassins, de prophètes fous qui pullulent dans cette région dans les années 50, vous savez, d'églises évangélistes, etc., etc. Donc en fait, elle décrit le vieux Sud, mais c'est vrai que c'est un vieux Sud un peu malade quand même à l'époque. Et donc du coup, ça déstabilise complètement son public chrétien, qui aurait dû être son public, au contraire, évident. Et puis le plus large public, qui est, je dirais, plus athée, le public plus séculier, on va dire, ne la comprend pas non plus parce qu'il y a une telle profonde dans son œuvre et en même temps aussi une spiritualité qui affleure au fil des pages, qu'au fond, je pense que pour les nouvelles, elle est plus comprise pour ses nouvelles que pour ses romans, mais la vraie dimension de l'œuvre n'est pas forcément tout à fait comprise. Et donc, elle continue son bonhomme de chemin sur le plan littéraire, mais c'est pas si simple. Alors, elle a quand même des prix, parce qu'elle a une plume magnifique, ça tout le monde le reconnaît. Encore une fois, elle a du succès sur ses nouvelles, mais ses romans sont très mal compris. Les deux romans qu'elle écrit, elle a du mal d'ailleurs à les écrire. Elle met plus de 3 ans et demi à les écrire, et elle est, à chaque fois, l'accueil est glacial.
Alors, on reparlera peut-être de La Sagesse dans le sang, qui justement n'a pas été bien.
Oui, son premier roman.
Son premier roman. Hein.
Oui. Effectivement, voilà, c'est une œuvre quand même très touffue. Assez démonstrative en fait, dans la façon dont elle met en scène, en fait, dans les deux de ces deux gros romans, elle met en scène dans des façons différentes, avec des fictions différentes, deux mondes, le choc de deux mondes, justement le monde séculier, donc je dirais moderne, progressiste, pour qui Dieu n'existe pas et l'homme contrôle son destin, maîtrise sa destinée, et puis à côté de ça, en mettant en scène évidemment des personnages différents, le monde fondamentaliste qu'elle a sous les yeux, donc du vieux Sud, avec cette foi un peu tonitruante, hein, des évangélistes, cette foi un peu habitée, extrême, mais au fond, qui n'est pas la sienne. Hein. Elle a une foi très, comment dirais-je, très catholique et finalement très, très, très classique. Mais au fond, voilà, des deux camps, si elle doit en choisir un, c'est quand même plus le camp des fondamentalistes.
C'est Cécilia Duterre qui est ce soir l'invitée de Wagon Livre sur Radion. On va se retrouver dans une poignée de minutes. Je rappelle les références de la biographie littéraire dont nous parlons ce soir. Flannery O'Connor, Dieu et les Gallinacés, c'est aux éditions du Cerf. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invitée, toujours sur Radion.
J'avais envie que la vie m'étonne. Insoumis, j'attendais qu'elle me frôle. Je me saoulais d'envie d'elle et je nous voyais libres et légers. Elle et moi, c'était un jeu de rôle. Quand elle s'accrochait à mon épaule, j'étais pendu à son bras et je nous voyais loin. Savoir où je pars, seulement elle et moi. Et
s'élève et plus j'y crois. On s'est couru après avant ça. On se cherchait. Je la manquais de peu et elle m'attendait. Moi je l'entends.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Cécilia Duterre, Flânerie O'Connor a voulu aussi montrer de quelle manière on pouvait mettre en scène l'absurdité d'un monde sans Dieu. Et c'est une femme qui finalement a une réflexion sur un monde qui va devenir de plus en plus matérialiste.
À fait.
Et est-ce qu'elle ne s'est pas sentie un peu seule aussi? Est-ce que être catholique dans cette Amérique des années 50, est-ce que ça n'a pas été une épreuve supplémentaire pour Flannery O'Connor, en plus de cette terrible maladie invalidante?
C'est sûr que ça n'a pas aidé à en tout cas, du tout sur le. Enfin, disons que c'était pas facile pour elle, effectivement, de dire ce qu'elle avait à dire. En même temps, elle est effectivement, comme vous dites, écrivain croyant, écrivain catholique, revendiquée comme telle, et donc elle se situe aussi dans la lignée de tous ces grands écrivains catholiques qu'elle a lus justement à l'université. Donc, alors là, bien au-delà des auteurs américains, elle a lu Dostoïevski, elle a lu Mauriac, elle a lu Tolstoï, elle a lu beaucoup de Français, donc je citais Mauriac, mais elle a lu Blois, elle a lu Julien Green, qu'elle aimait beaucoup. Voilà, donc elle se situe dans cette lignée-là. Et effectivement, son credo, c'est de démontrer l'absurdité d'un monde sans Dieu, comme ses pères l'ont fait avant elle. Et elle sait très bien que c'est certainement pas en édulcorant le réel qu'elle va pouvoir le faire, mais c'est au contraire au sein du réel qu'elle décrit magnifiquement, que Dieu apparaît. Et en fait, comment elle fait apparaître Dieu, c'est assez intéressant. Elle fait tomber sur ces personnages dont on parlait tout à l'heure, ces anti-héros. Elle les met dans des situations chaotiques, ils vivent des choses assez terribles. Elle les fait dégringoler, plus bactères. Et puis tout d'un coup, souvent en fin de nouvelle ou en fin de roman, la grâce divine va tomber sur eux et leur révéler que leur pauvre croyance, ce qu'ils croyaient être la vérité, leur petite vérité finalement, est très pauvre et que, je ne dirais pas la vérité, mais que la réalité, avec un grand R, est beaucoup plus large que leur petit réel et qu'elle contient une part de visible, celle qu'ils voient, mais aussi une part beaucoup plus large d'invisible, cet invisible qui pour elle est évident et qu'elle aimerait nous dévoiler, et qu'elle nous dévoile d'ailleurs très bien dans son œuvre. J'aimerais cette part qu'on... de sacré, la part de sacré de la vie.
J'aimerais que l'on revienne sur La sagesse dans le sang. Donc c'est son premier roman qui est paru en mai 1952. Elle a donc 27 ans à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce roman de...
Il est très complexe à résumer. Hein. Je serais ennuyée de le faire là parce que c'est un roman qui est extrêmement touffu. Mais encore une fois, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de deux personnages, elle va vraiment mettre en scène le choc justement de ces deux mondes dont on parlait, le monde athée avec cette vision effectivement de l'homme très progressiste, cette vision presque où la science, où le progrès est Dieu, devient Dieu, je mets des guillemets, et puis à côté de ça une vision plus fondamentaliste parce qu'elle met en scène effectivement un prophète un peu fou qui prêche une église, c'est compliqué à expliquer, mais en tout cas par le biais de ces deux personnages, elle confronte les deux visions de la vie, qui sont effectivement deux regards sur la vie extrêmement différents. Et alors, effectivement, à la fin du roman, la grâce divine tombe sur le personnage principal qui comprend que la voie pour lui, c'est celle du Christ. Mais dit comme ça, évidemment, ça paraît très, très, très édulcoré, très édifiant. Ça ne l'est pas du tout. Je pense que le mieux, c'est quand même de la lire parce qu'elle est irrésumable. Ces nouvelles sont difficiles à résumer, mais ces romans sont extrêmement... ils comportent tellement de degrés de lecture que ce serait, déflorer complètement le sujet que de le résumer en trois lignes.
Et en 2017, est-ce que Flannery O'Connor reste dans une certaine actualité ? Est-ce que sa manière d'aborder le regard qu'elle a sur la société américaine des années 50, est-ce qu'aujourd'hui ça peut encore nous parler ? Est-ce que ça peut enrichir notre réflexion ?
Déjà, je pense que, alors évidemment, on n'est plus du tout dans les années 50, bien sûr, il n'y a pas cette lutte intégrationniste, mais enfin, il y a encore beaucoup de soucis. Hein. Dans le Sud, on a vu ça cet été, il y a encore beaucoup de racisme. Je pense que oui, elle est moderne sur cet aspect-là, parce qu'elle le dénonce quand même. Hein. Dans son œuvre, elle dénonce le racisme. En filigrane, ça habite complètement son œuvre. Elle est moderne surtout, je pense, sur le plan littéraire. Moi, je dirais que c'est un maître en écriture. D'abord parce qu'elle écrit magnifiquement bien, donc il faut la lire, mais aussi parce que justement elle est extrêmement libre et elle a une façon d'être libre à l'intérieur du dogme, c'est-à-dire qu'elle est catholique pratiquante, mais en même temps c'est sa grille de lecture, et au sein de cette grille de lecture elle est extrêmement créative. Et justement on aurait tendance à penser, nous à notre époque, et peut-être même moi la première, que le dogme est quelque chose de très enfermant, le dogme religieux quel qu'il soit peut-être très, très enfermant. Alors c'est vrai qu'il peut l'être, mais on peut aussi imaginer une autre façon de prendre les choses, et c'est ce qu'elle fait elle dans son œuvre, c'est d'imaginer que c'est une toile, une grille de lecture, encore une fois, et que c'est à l'intérieur de cette toile qu'on peut au contraire être infiniment créative. Elle l'a été puisque justement elle a tout fait sauf une œuvre édifiante, et donc elle est indépendante, elle est libre, je la trouve moderne en ce sens-là, et même très féministe au fond, mais dans le bon sens du terme, parce que elle a suivi son chemin chemin propre, et au fond on est tous amenés, qu'on soit écrivain ou pas, finalement on est tous amenés à se connaître et à aller vers ce pourquoi on est fait. Elle l'a fait effectivement, je trouve, assez sublimement.
Cécilia, j'aimerais que vous nous parliez de Andalusia. Donc Andalusia, c'est le nom de cette ferme que Flannery O'Connor va être contrainte d'habiter lorsque, effectivement, la maladie, alors c'est ce fameux
lupus érythémateux,
va effectivement la frapper de plein fouet, et elle va se retrouver à vivre avec sa mère, finalement.
Oui. Et elle croit un temps que ça va être la fin de l'écriture, parce qu'elle se dit, je vais voir plus personne, ça va être terrible, je vais être recluse, malade. Et curieusement, après quelques semaines à Andalusia, d'abord c'est une... Moi j'ai été la visiter.
Vous l'avez visitée, oui, donc cette ferme.
Donc c'est une ferme, là pour le coup, beaucoup plus simple. Une très belle demeure, mais simple, je veux dire. C'est pas du tout à l'image des demeures en Tébéloum qu'on peut voir dans le sud. C'est une ferme, entourée de prairies, de bois. C'est très beau. Elle était aussi entourée de colonies de paons parce qu'elle aimait beaucoup les paons, donc les paons pullulait sur le domaine. Et puis, oui, au bout de quelques semaines, elle se rend compte qu'au fond, cette solitude, elle est bonne pour écrire et qu'elle va creuser ce que Maritain appelait l'habitus de l'art. Vous savez, cette façon de regarder, d'observer le monde créé pour justement y déceler toute la part de sacré qui existe dans la vie. Or, justement, cette solitude creuse en elle encore ce goût du divin, cette façon d'être habitée par l'invisible. Et donc va l'aider au fond dans son art, même si bien sûr ça reste une vie isolée. Alors isolée, oui, et pas tant que ça, parce que finalement elle avait pas mal de visites et aussi une correspondance très riche. Donc isolée au sens où elle voit pas tant de monde que ça, mais pas si isolée sur le plan littéraire ni sur le plan du monde, parce qu'elle répond à de très nombreux courriers qui lui viennent de tous les États-Unis. Et alors, elle a beaucoup de loufoques hein, qui lui écrivent, mais elle a aussi beaucoup d'intellectuels. Et donc, c'est une façon de garder un contact avec le monde.
La difficulté pour Flannery O'Connor, c'est aussi une vie avec beaucoup de tensions avec cette mère autoritaire. Lorsqu'elle introduit les pans, vous l'écrivez, c'est aussi une façon pour Flannery O'Connor de gagner du terrain sur cette mère autoritaire qui finalement ne voulait pas d'animaux, craignait les maladies, ne voulait pas s'embêter avec des gallinacées encore une fois de plus.
Alors Regina, c'est une digne représentante hein, des propriétaires blancs que Flannery O'Connor ne cesse de croquer et de caricaturer un peu dans son œuvre. Donc déjà, il faut comprendre ça. En même temps, c'est une femme qui est gentille, hein, qui essaye, alors qui aide, qui soutient beaucoup sa fille sur le plan matériel et sur le plan aussi de la vie quotidienne, parce qu'elle fait très peu de choses vu qu'elle est très malade. Donc Regina, elle a un rôle extrêmement important, y compris donc pour que Flannery puisse écrire. Et Flannery en est parfaitement conscient, donc elle aime vraiment sa mère. Mais elles ne sont pas faites du même bois. Sa mère n'a jamais compris sa fille, même jeune. On le disait tout à l'heure, c'était plutôt le père qui comprenait la jeune fille. Et plus tard, le fossé ne fait que se creuser. D'autant que Regina, en bonne catholique pratiquante, elle attend, elle, une littérature édifiante que donc Flannery ne fait pas. Donc elle ne comprend pas non plus l'œuvre. Et elle se demande pourquoi sa fille prend toujours effectivement des anti-héros, pourquoi elle met en scène la violence, pourquoi elle utilise cette crudité. Et au fond, elle ne la comprendra vraiment jamais. Mais alors, c'est des conflits, mais ce sont des conflits larvés. Et effectivement, vous parliez des paons, et c'est amusant parce que donc Flannery a une passion pour les paons. Elle achète d'abord un couple de paons et puis ils font des petits. Et en fait, ils pullulent et ils mangent les roses que Regina a plantées. Et donc, c'est une espèce de guerre de territoire entre les deux femmes qui se fait par paons interposés.
Matériellement, comment s'organise la vie de Flannery O'Connor ? Parce qu'elle n'a pas vraiment vécu de sa littérature.
Si, à la fin, si. Alors au début, bien sûr, non. C'est beaucoup la mère qui... le domaine, en fait, fonctionne avec Regina et puis un couple de métayers noirs. Donc elle a... y a des vaches, enfin c'est une ferme. Voilà, elle l'a fait tourner, donc il y a des revenus. Et puis Flannery O'Connor reçoit quand même un certain nombre de prix. Des prix de l'Iowa notamment, qui sont donc dotés de bourses. Alors bon, c'est premier revenu. Et puis quand même, elle a une œuvre qui se construit. Donc elle a des contrats d'édition, elle a quand même quelques revenus. Ensuite, son œuvre est traduite en France. À partir des années 60, son œuvre est traduite en France. Donc ça crée aussi des revenus. Et curieusement d'ailleurs, elle est beaucoup plus appréciée en France. Très vite, elle est éditée donc, en France par Gallimard. Qui est d'ailleurs, c'est chez Gallimard qu'on pourra trouver toute l'œuvre traduite en quarto. Et elle est très vite, elle a un statut d'auteur en France qu'elle n'a pas encore aux États-Unis. Elle est presque plus connue en France qu'aux États-Unis à l'époque. Parce que je pense que c'est une littérature, encore une fois, assez exigeante et que la France, par tradition, aime bien aussi les littératures de chapelle. C'est moins vrai aux États-Unis à l'époque. Et puis elle donne aussi quand même quelques conférences. Alors c'est vrai, on disait qu'elle bougeait peu, mais elle appelle ça des expéditions gagne-pain. Elle va faire quelques conférences aux États-Unis par-ci par-là sur la littérature et aussi sur son œuvre. C'est aussi une façon d'expliquer son travail et ce qu'elle souhaite révéler au sein de son œuvre. Tout ça quand même génère quelques revenus. Et puis elle achète un petit fonds, un petit bail à Milledgeville et elle le loue. Donc ça lui crée un peu des revenus. Mais c'est effectivement, pour l'essentiel, tout repose sur Regina. Hein.
Alors on a bien compris que Flannery O'Connor s'installe avec sa mère dans cette ferme à Andalusia. Donc on est à quelques kilomètres de Milledgeville ou tout à côté de Milledgeville.
Oui, c'est vraiment pas loin.
Mais c'est la campagne. Hein.
Oui, c'est la campagne profonde.
Et on a bien compris qu'il y avait une incompréhension entre la mère et la fille. Et ça ressemble à une des nouvelles qui se trouve dans le recueil « Braves gens de la campagne » où là, il y a le personnage d'une jeune Ulga, qui est une jeune intellectuelle affligée d'une jambe de bois et qui est contrainte de vivre à la ferme avec sa mère, incapable de la comprendre. Donc là, j'imagine que c'est très autobiographique.
Oui, ben, il y en a plusieurs. Hein. Les personnages de mère, de veuve, alors ce qui est Regina, hein, puisque depuis que le père est mort, elles sont seules, il n'y a plus d'hommes à la maison. Les personnages de veuve ou de divorcée, un peu psychorigides comme ça dans l'œuvre, sont très fréquentes et c'est vrai que je pense que plus que... Alors, les conflits, finalement, sont réglés par œuvre intermédiaire, c'est-à-dire que en exaltant ces personnages de marâtre un peu dans son œuvre, bah, elle règle ses comptes, mais elle ne le fait pas, en face à face.
Est-ce que Regina, la mère de Flannery, a lu ces nouvelles et a saisi que c'était elle qui finalement se trouvait mise en scène dans les nouvelles ?
Bah, sûrement. Je pense qu'elle était intelligente, sûrement. Après, rien ne le dit dans la correspondance, mais sûrement. Et je pense que ça a dû nourrir aussi quelques animosités entre les deux. Mais au fond, elle s'aime hein, quand même. Parce que Flannery O'Connor, quand elle est jeune, par exemple, elle passe un an loin de sa mère, d'abord à l'université, puis ensuite chez un couple, le couple Fitzgerald, qui étaient des amis qui l'ont hébergée. Lorsqu'elle a écrit son premier roman, pour qu'elle soit un petit peu à la campagne, retirée et au calme. Et elle écrit à sa mère tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle envoie une lettre à sa mère. Donc vous voyez, il y a un lien quand même très profond. Il y a beaucoup plus d'amour que de... Il n'y a pas de haine, hein, mais il y a effectivement une incompréhension.
On marque une dernière pause musicale à bord de Wagon Livre et puis on se retrouve dans quelques minutes pour conclure avec notre invitée Cécilia Duterre pour... continuer d'évoquer et encourager nos auditrices et auditeurs à lire ou relire Flannery O'Connor, essentiellement disponible chez Gallimard dans la collection Quarto. Hein. On se retrouve dans une poignée de minutes.
People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you.
You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better.
There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you.
Love, love, love.
You, I was treading water.
And baby, I know, you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you,
you love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better.
There've been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you
love, love, love me, love me better.
Things. Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she
love, love, loves me. Love, love, loves me.
Someone else, someone lesser than you. Love, love, love me better.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Cécilia Duterte, en avril 57, paraît « Et ce sont les violents qui l'emportent ».
Donc c'est deuxième roman.
C'est le deuxième roman qui va paraître en février 1960. Hein, finalement. Bon. C'est un titre qui est inspiré de Matthieu, donc de l'Évangile. Je cite « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. »
Et oui, elle utilise « Et ce sont les violents qui l'emportent », mais vous voyez que même dans le titre, va-t-elle être comprise de son public ? Parce que, est-ce que le public chrétien déjà va faire le lien avec cette phrase de Matthieu, qui est quand même une des plus énigmatiques de l'Évangile ? Et est-ce que le public athée va comprendre ? Je ne pense pas. En fait, cette exhortation, hein, et ce sont les violents qui l'emportent, qui fait référence donc à cette phrase de Matthieu, qui exhorte en fait les chrétiens à avoir une foi forte, puissante. Ce sont ceux qui croient puissamment en Dieu, qui régissent le monde. Et c'est ce que d'ailleurs Flannery O'Connor, à travers une fiction encore une fois un peu difficile à résumer, va vouloir exalter dans ce deuxième roman. Mais vous voyez que dès le titre, elle aura du mal à se faire comprendre. Parce que finalement, elle s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément la matière pour comprendre ce qu'elle a à dire. Alors, en même temps, ça peut se lire aussi à des degrés divers. On n'est pas obligé de comprendre toute la profondeur de champ qu'elle veut y mettre. Mais souvent, non seulement elle est mal comprise, mais parfois elle est même complètement... on passe à côté, enfin, les journalistes de l'époque passent à côté de son œuvre.
Flannery O'Connor va mourir le 3 août 1964. Elle aura connu la montée du combat pour l'égalité, notamment le combat de Martin Luther King. Elle aura connu les espoirs que portait en lui Kennedy, qui sera assassiné à Dallas en novembre 1963. Pas très frotté de politique, de toute façon.
Non. Alors, encore une fois, dans l'œuvre, il y a une dénonciation du racisme. Les personnages de noirs sont très présents, hein, dans l'œuvre de Flannery O'Connor et pour mettre en valeur la précarité de leur statut et les injustices auxquelles ils sont en butte. Mais et c'est vrai que la lutte politique, elle l'a regardée un peu de loin. Alors, ça peut nous paraître un peu peu timide à nous maintenant avec le recul, mais en même temps elle était pas contre du tout cette lutte. Simplement elle trouvait qu'il y avait beaucoup d'orgueil à penser qu'on pouvait retourner 200 ans de suprématie blanche par quelques mesures. Et parce que c'était ça en fait, les mesures elles étaient et il fallait aussi une forme de violence là pour le coup pour instaurer des mesures pour l'égalité, mais en même temps ça a été très rapide les tenants de cette lutte égalitariste qui était encore une fois très utile et elle ne le remettait pas en cause, avaient une forme d'orgueil à imaginer qu'ils pouvaient et de naïveté, qu'ils pouvaient renverser tout un régime, des décennies de suprématie blanche en quelques temps. Et elle pensait plus d'abord sur le temps, justement, pour renverser les choses, et aussi sur un esprit évangélique d'évangile, que les Blancs vraiment changent un regard intérieur vis-à-vis des Noirs pour que les choses changent. Et au fond, elle avait raison, voyez-vous, regardez, on est des années et des années après. Alors évidemment, les choses ont changé, mais ça a mis du temps et les choses ne sont pas totalement résolues. On n'est pas arrivé à un égalitarisme total dans le vieux Sud-Américain et aux États-Unis non plus d'ailleurs, au sens plus large.
Et puis je vous cite, Cécilia, pour Flannery O'Connor, un être est perfectible, enclin au mal, mais susceptible de se racheter quand ses efforts sont soutenus par la grâce.
Ben oui, c'est vraiment le credo chrétien, hein. Ça, c'est exactement ce qu'elle a mis en lumière par le biais à travers ses nouvelles. C'est ce qu'elle a toujours voulu illustrer.
En tout cas, bien sûr, j'espère que cette émission aura donné le désir à nos auditrices et auditeurs de découvrir, hein, j'avoue moi-même ne pas bien connaître l'œuvre de Flannery O'Connor, et votre biographie littéraire disponible aux éditions du Cerf, Cécilia, nous donne envie d'aller découvrir cette œuvre originale qui restera.
Ah, je pense, maintenant elle est quand même, par contre, et maintenant elle est un écrivain considéré comme majeur aux États-Unis, et elle est quand même assez connue aussi en France, alors effectivement, peut-être sans doute pas assez, mais vraiment j'invite vraiment chacun à la lire parce que c'est une œuvre qui peut vraiment nous accompagner. On peut grandir avec elle.
En tout cas, une très belle première approche littéraire sous votre plume, Cécilia Duterre, Flannery O'Connor, Dieu et les Gallinacées, c'est aux éditions du Cerf. Une émission, chère Cécilia, que nous avons enregistrée dans la cour du château du Claude Vougeot, sous le soleil. Je vous remercie,
merci
Cécilia.
Merci à vous, merci à vous.
Et puis je remercie celles et ceux qui nous ont écoutés. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Au revoir à toutes et à tous. Thank you.